Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. N'importe quoi, mais quelque chose qui la sorte de sa monotonie. Rien que le fait de savoir qu'elle va dîner avec Pierre, ça la dégoûte. Cet homme en face d'elle, mangeant proprement, ne parlant que de banalité. Elle veut de la vie. Et puis, Pierre au lit est devenu assez routinier, parce que lui aussi se lasse. Le connaît par cœur, Carole, sa Carole. Il la connaît même plus qu'Antoinette. Et si elle était encore en vie, il la désirait plus que Carole. Et la tromperait avec elle. Parce qu'elle est devenue plus attirante que Carole, qui s'est donnée en entier à lui. Et en se donnant en entier, il ne lui reste plus rien, plus de surprise. Elle, Carole, avant son mariage, aimait les instants rapides avec les hommes. Mais quelle idée a-t-elle eue de vouloir se marier avec un homme? Cet homme, si l'on veut, parce que si elle s'était mariée avec un autre, ça aurait été la même chose. L'ennui serait venu, comme si ça, même avec le plus bel homme du monde. Elle se dit qu'elle va peut-être vivre avec lui toute sa vie. Oui, bien sûr, il y a le divorce, Mais le divorce, lorsqu'on a des biens, ce n'est pas facile. Et puis, elle est en affaire avec le groupe Fembran. Et comme il fait partie de ce groupe, une petite participation, mais tout de même une participation, il pourrait, pour se venger, demander au groupe Fembran d'arrêter la participation à son projet. Et elle serait à la ruine. Et même le groupe Fembran pourrait le faire de lui-même. Qui sait, s'il n'a pas accepté son offre, parce qu'il savait qu'elle allait se marier avec un Banche. Non, il vaut mieux pas divorcer. Elle va comme ça de l'avant, sans savoir où elle va. Mais elle n'a nulle envie de rentrer chez elle. Et puis, pourquoi faire? Une fois chez elle, elle s'ennuie. Elle n'a rien à faire. Elle ne peut rien toucher. Tout est rangé. Et on ne peut rien déplacer. Car si on le déplace, on risque de toucher aux choses de Pierre. Et puis chaque fois qu'elle ouvre un placard, elle tombe sur des piles de choses à lui. Elle a l'impression d'être chez un inconnu. Bien sûr, elle a vécu seule pendant trop longtemps et a des difficultés à vivre avec une personne. C'est très difficile de vivre à deux. Et encore, elle a de la chance que ses fils ne sont pas avec eux. Remarquez, il y aurait de drôles d'embrouilles. Parce que ses fils, qui n'ont rien pour elle, et qui commencent à devenir intéressants pour une femme. Donc, il est vrai que dans les remariages ou copinages, entre les enfants et les amis de leurs parents, ou nouveaux compagnons, il y a des difficultés à se retrouver, à placer ses désirs et ses non-désirs, ses désirs interdits. Où s'arrête, où ne s'arrête pas la faute. Et on n'arrive plus à voir la faute. Et Carole ne voit pas ça. Elle vit pour ses désirs, ses instincts. La morale, elle ne veut rien. Ça ne veut rien dire pour elle. La famille non plus. C'est une bête qui cherche ce dont elle a besoin. Et ce soir, elle a besoin de quelqu'un pour sortir de sa monotonie. Lorsqu'il lui arrive de sortir de ses pensées, elle voit quelques jeunes gens assez intéressants. Elle a envie d'en suivre un et de voir. Justement, elle voit qu'il marche devant elle un jeune homme dans les 22 ans. Il est grand, mince, cheveux châtains, courts, habillé d'un costume gris. Il semble avoir un assez joli corps. Carole aimerait voir son visage pour voir s'il est assez bien, s'il est aussi beau que son corps. Elle le dépasse, le voit de profil. Il a un charmant petit nez, une bouche aux lèvres pulpeuses, petites oreilles. De face, le visage est beau. Disons un peu ovale, mince, yeux bleus. Lorsqu'elle le regarde, le jeune homme a vu qu'elle le regarde. Il a été surpris. Elle ralentit le pas pour qu'il la dépasse. C'est ce qu'il fait. Mais au bout de quelques secondes, il se retourne et la regarde. Continue à marcher. Elle le regarde bien. Il ne se presse pas. Elle sait qu'il sait qu'elle le suit. Il se retourne une ou deux fois. Elle le regarde bien. Il ne dit rien, ne fait pas un geste. Il a peut-être un petit côté dédaigneux. Comment non les jeunes hommes qui se sentent désirés par un homme ou une femme d'ailleurs? On dirait qu'au lieu d'être fiers qu'on les trouve beaux, ils vous méprisent parce que vous les trouvez beaux. Pour eux, c'est comme si vous les abaissiez ou même vous vous abaissiez. Bizarre ce comportement. Au lieu d'être fiers et trouver que la personne a raison de les trouver beaux, et qu'il les trouve beau de rehausser la personne parce que vous trouvez qu'elle a du goût, non, c'est le contraire. Elle se comporte comme si vous voulez une personne en s'abaissant ou parce qu'elle aime une merde. Ils ne se rendent pas compte, mais leur comportement prouve qu'ils se prennent pour de la merde, que ceux qui les aiment sont cons parce qu'ils ne le méritent pas, etc. Et beaucoup de gens sont comme ça. Ils ne se rendent pas compte. Ils se comportent comme des égoïstes. Personnes qui n'aiment pas peuvent les trouver beaux. Par contre, eux, s'ils trouvent une personne belle, il faut que la personne les trouve beaux. Autrement, ce sont des cons, etc. Elle continue à le suivre en se disant que sûrement il va s'arrêter et qu'il se passera quelque chose. Il continue à marcher et ne semble nullement ému. Il l'amène dans des rues de plus en plus tristes et étroites. Elle se dit pourvu qu'il ne me mène pas dans un coin pour me voler. Je suis peut-être un peu trop bien habillé et qu'il pense que j'ai pas mal dans ma carte. Il ralentit le pas, elle aussi. Il entre dans l'allée d'un vieil immeuble de 4 étages, un immeuble lépreux, sans style. Elle hésite un peu, vers la porte de l'allée, porte étroite, peinte en marron. Elle n'a pas de fermeture. Il suffit de pousser. Elle se dit, tant pis, je pousse. J'ai pas fait tout ce trajet pour rien. La porte s'est refermée derrière elle. L'allée est sombre, on n'y voit presque rien. Une ampoule au plafond. Mur noir et taché, boîte aux lettres disparate. Ça sent une odeur d'humidité, un vrai coupe-gorge. Elle réussit à voir, il est accoudé au mur, près des boîtes aux lettres. Il la regarde d'un air froid. Elle s'approche de lui. Il relève le pied gauche qu'il plaque le talon sur le mur. Il lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Il a une voix dédaigneuse qui la surprend. Elle lui dit « Rien ?» Il lui dit « Alors tu m'as suivi tout ce temps pour rien ? Tu me prends pour un con ?» Elle baisse ses yeux et lui dit « Non ?» Avec une main, il lui caresse les seins. Par-dessus son chemisier blanc, elle est en tailleur rouge. Elle aime cette main douce et dure qui la touche et lui dit « Viens ». Il amène derrière les escaliers où il y a un renfoncement qui donne à une porte qui donne aux escaliers qui descendent à la cave. Là, il déboutonne son corsage. Elle n'a pas de soutien-gorge. Il lui baisse les seins. Puis, sa main va sous la jupe. Plus tard, essoufflée, défaite, elle remonte sa petite culotte, descend sa jupe, reboutonne son corsage, se passe ses mains sur ses cheveux, lui remonte son slip. Son pantalon, il y a à terre un Kleenex blanc, il a les cheveux courts, il n'a pas besoin de se repeigner. Une fois qu'ils sont prêts, il lui dit « Tu peux me donner un petit quelque chose ?» Elle sort sa carte, lui son écran, elle lui met une somme, il reprend l'écran. « Merci. » Je parle premier. Tu attends un peu. Et il s'éloigne. Elle le regarde quitter l'allée. Puis, elle sort à son tour. Elle regarde la rue. Il a disparu. Elle regarde où elle est. Elle ne connaît pas ce coin de Paris. Elle décide de marcher et de prendre un taxi. La rue est presque déserte. Cette fois, elle a l'impression que ce sont les hommes qui la suivent. Des hommes à drôle d'allure, cheveux noirs, mal habillés. Elle presse le pas. Elle n'aimerait pas être attaquée. Enfin, elle voit arriver à elle un taxi. Elle lui fait signe de s'arrêter. Il s'est arrêté. Elle entre. Le chauffeur, un gros à moustache, lui demande : Où va-t-on ? Elle lui donne son adresse. Et le taxi se met en marche. Tout en roulant, le chauffeur lui demande : Mais qu'est-ce que vous faisiez dans un quartier pareil, ma petite dame ? Il ne répond pas. Il continue et lui dit : On voit que vous êtes une femme bien. Faut faire attention, pas aller dans certains coins. On est vite attaqué. Normalement, il ne passe jamais de taxi dans ce coin. Elle ne dit rien. Le taxi va s'arrêter devant chez elle. Elle le paye et sort. Et elle entre dans son allée. Épuisée. La longue marche qu'elle a faite l'a fatiguée. Elle va prendre l'ascenseur. Sort de l'ascenseur. Et va sonner chez elle. C'est mieux de sonner lorsque l'on sait qu'on a quelqu'un chez soi. La porte s'ouvre, c'est la bonne.
Bonjour madame.
Bonjour.
Monsieur est là ?
Oui madame,
il vous attend au salon. Elle lui dit : Bien, je vais aller le voir.
Et elle va au salon. Frappe à la porte. Entrez. Elle entre. Il s'assit dans un fauteuil. Il se lève en la voyant. Elle va à lui. Il lui demande : Où étais-tu ? Elle lui dit :
Un client.
Amené à boire un verre, et voilà, le temps a passé. Il lui dit : Mais il est très tard. Elle regarde sa montre. 22 heures. Elle lui dit, j'ai pas vu l'heure passer, excuse-moi. Tu as dîné? Non, je t'attendais. Elle lui dit, mais il ne fallait pas. Elle appuie sur la sonnette qui est sur la table basse pour prévenir la bonne qui veut le dîner. Elle lui demande, t'as passé une bonne journée? Il lui dit, oui, assez. Mon père me donne de plus en plus de travail. Frappe à la porte. Entrez. C'est la bonne. Elle lui dit, nous allons dîner. Bien, madame. Et la bonne s'en retire. Elle demande à son mari, tu veux boire quelque chose? Il lui dit, oui, un bourbon. Elle fait, eh bien, moi aussi. Et elle va chercher la boisson au bar. Elle revient avec un verre, avec deux verres et la bouteille. Fait le service. Tiens, merci. Puis, s'assoit en face de lui. Il lui dit, ma mère fait la tête. Elle veut que mes fils viennent vivre ici. Elle lui demande, qu'est-ce que tu vas faire? Il lui dit, je ne sais pas. Et toi? Elle lui dit, c'est un peu petit ici, avec deux adultes. Si en plus nous les avons, attendons d'être chez nous. Et lui dit, serait mieux, oui, attendons. Il n'a pas du tout envie de retrouver ses fils. On frappe à la porte. Elle fait, entrez. C'est la bonne. Le repas est servi, madame. Elle lui dit, bien, nous arrivons. Il se lève pour aller à la salle à manger. Arrivé à la salle à manger, il s'assoit à la table, l'un en face de l'autre. Pendant le repas, lui dit, tu sais, tu ne dois pas te faire du souci si je rentre un peu tard le soir. Les affaires, tu connais? Il lui dit, oui. Et comment avancent tes affaires? Elle lui dit, ça avance. Pour ce qui est de la télévision, haute définition, le groupe Franblanc prépare des chercheurs. Ils en sélectionnent une centaine et recherche un lieu pour mettre le laboratoire de recherche. Il pense c'est reprendre le terrain qu'avait la CDC à Montrouge. Où était le laboratoire de recherche? Il lui dit, on te gâte? Elle lui répond, nous nous gâtons. Et le nouveau laboratoire s'appellera Laboratoire de Recherche Haute Définition de Télévision Franblanc Compagnie Vision. Il lui dit, pas mal. Elle lui dit, la salle de réunion sera baptisée Roté Barthélemy. Désormais, le soir, de temps en temps, elle ne rentre pas tout de suite. Elle va à la recherche de sensations. Très souvent, elle ne rencontre personne. nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.